Ne vous êtes-vous jamais demandé comment certaines espèces réussissaient à être si pénibles? Votre chat a encore des puces. Vous rentrez d'une balade en famille dans la forêt voisine, vos enfants auraient-ils attrapé des tiques? Heureusement ou malheureusement dans certains cas, nous ne vivons jamais seuls. Nous avons tendance à l'oublier. Mais pourquoi? Parce que l'humanité des pays riches vit dans une oasis sanitaire depuis un siècle. Nous pensions avoir éradiqué la gale, le ténia ou la punaise de lit, mais il suffit qu'une population humaine de nos opulentes cités se paupérise et couche dehors pour que certains reviennent au galop, et cela même dans nos appartements bien propres. Je vais donc évoquer les parasites. Mais qui sont les parasites et surtout que font-ils? Les parasites sont des individus d'une espèce grand A qui viennent chercher des noises, comme disait ma grand-mère, à ceux d'une espèce grand B. À ma droite, le parasite. À ma gauche, l'hôte. Ces parasites sont des animaux, des plantes, des champignons ou des organismes unicellulaires. Mais que font-ils? Le parasite vient simplement emprunter le gîte, le couvert, la chaleur, les ressources de l'hôte pour se nourrir et se reproduire. Il se développe aux dépens de son hôte. Il en résulte donc un bénéfice pour le parasite et un déficit pour l'hôte. La vie est injuste, mais elle est comme ça. Parfois, ce déficit est une simple gêne, mais parfois, ce déficit se termine par la mort de l'hôte. Pour aujourd'hui, je vais tenter de ne pas être trop macabre et de vous emmener sur le chemin de l'incroyable diversité évolutive des adaptations parasitaires. Des adaptations qui sont encore plus riches et plus variées que ne le sont les façons de profiter de son voisin dans nos sociétés humaines. Que pensez-vous des petits voleurs à la tire ou des piques-assiettes? Dans la nature sauvage, se procurer sa nourriture n'est pas toujours simple. Alors pourquoi ne pas la voler à un individu d'une autre espèce? Il suffisait d'y penser. C'est le kleptoparasitisme. Le cas le plus connu est sans conteste celui des hyènes qui ont la mauvaise réputation de voler les lions ou les guépards. D'ailleurs, il n'est pas très agréable de se faire traiter de hyène. Chez les oiseaux, les frégates volent leur proie à d'autres oiseaux, par exemple aux fous. La mouette rieuse vole ses proies aux vanneaux huppés ou aux pluviers dorés. La pie et d'autres corvidés, qui sont voleurs et aussi un petit peu lâches, volent leurs proies à des plus petits qu'eux. Il n'y a pas que les vertébrés. Plusieurs araignées du genre argyrode pratiquent le kleptoparasitisme à l'encontre d'autres araignées. Y aurait-il des braqueurs spécialisés? Dans nos sociétés, certains braqueurs sont des généralistes, tandis que d'autres se spécialisent sur les banques ou les bijouteries. Certains sont furtifs, c'est discret, d'autres sont plus violents. Dans la nature, l'avantage de la spécialisation est que le parasite peut s'adapter plus facilement à son hôte. En retour, l'hôte peut améliorer son système de protection contre le parasite. Un but partout. L'inconvénient aussi est que si l'hôte disparaît ou se fait rare, le parasite va être fortement impacté. Donc, l'avantage pour des parasites à large spectre, c'est de minimiser les risques de manquer d'hôtes. En retour, cela suppose une moindre spécialisation et donc une moindre efficacité sur chacune des espèces hôtes. Je vais néanmoins vous en présenter un exemple plutôt étrange. Allons en mer, en compagnie d'un crustacé, un isopode proche des cloportes terrestres et parfois désigné comme poux de mer. Ce cloporte marin est un parasite à large spectre. Il parasite plusieurs espèces de poissons, mais toujours de la même manière, en s'installant dans leur bouche. Un peu comme un cambrioleur qui ne visiterait que les cuisines, mais chez tout le monde. L'animal entre par les ouïes du poisson, il arrive dans la cavité orale et s'arrime sur la langue. Il pompe le sang de la langue, qui finit par régresser, faute d'apport sanguin. Il grossit jusqu'à prendre la place de la langue, réduite à un moignon, à tel point que le poisson finit par utiliser le parasite à la place de son ancienne langue. Le parasite, qui est pourtant bien placé pour profiter de la ressource en nourriture ingérée par le poisson, se nourrit en fait du mucus sécrété par son hôte. Et c'est le seul cas de parasitisme où le parasite remplace un organe de l'hôte. Et si nous passions maintenant aux parasites manipulateurs ? Dans la vie courante, les médias nous informent régulièrement d'escrocs tirant profit de la faiblesse ou de la naïveté de leurs victimes. Celles-ci sont induites en erreur par un beau discours et y perdent en fait leur esprit critique. Pareil ou presque dans le monde vivant. Certains parasites bouclent leur cycle de reproduction en manipulant le comportement de l'hôte. En voici un exemple particulièrement tordu. La petite douve du foie est un ver plat, parasite des voies biliaires de mammifères herbivores, le plus souvent des moutons. Son problème est qu'elle doit être ingérée pour passer d'un mouton à un autre mouton. Or, les douves ne jouent pas à saute-mouton. La solution sélectionnée au cours de l'évolution a été un cycle de reproduction complexe de cette douve du foie qui passe par deux autres intermédiaires. On va regarder le détail. Les douves sont installées bien au chaud dans un mouton, elles pondent des œufs qui se retrouvent donc dans les crottes du mouton infecté. Des escargots, qui sont les premiers hôtes intermédiaires, se délectent des crottes de mouton et avalent les œufs. Les œufs vont éclore dans le tube digestif des escargots, ils deviennent alors des larves qui sont expulsées dans l'herbe avec la déjection des escargots. Des fourmis se régalent de ces larves. Des fourmis qui sont les deuxièmes hôtes intermédiaires de cette douve. Certaines larves de douve vont se nicher dans le système nerveux de la fourmi et elles prennent partiellement le contrôle de son comportement. La fourmi devient alors une fourmi suicidaire. À la tombée de la nuit, elle monte au sommet d'un brin d'herbe, elle y plante ses mandibules et elle se laisse pendre jusqu'à ce qu'un mouton vienne brouter le brin d'herbe avec la fourmi et la boucle est bouclée. Y aurait-il des arroseurs arrosés ? Si je pose la question, vous vous doutez que la réponse est positive. On les appelle des hyperparasites. Ils sont en fait des parasites de parasites. Le grondeur rayé est un poisson de l'Atlantique qui est régulièrement pris pour cible par des trématodes qui sont des sortes de vers plats qui sont tous parasites. Mais ces parasites qui se croyaient tranquilles sont eux-mêmes la cible d'une microsporidie, un champignon, qui en quelque sorte est un allié du poisson. Autre exemple, une chenille du papillon blanc du chou, Pieris rapae, dévore des feuilles. Bon, jusque-là, c'est assez classique. Mais moins connu, le chou se défend en émettant une substance chimique volatile. Une guêpe qui passe par là renifle la substance émise par le chou. Elle fonce sur la chenille, pique la chenille, non pas pour la tuer tout de suite, mais simplement pour y pondre ses œufs. Lorsque les œufs de la guêpe éclosent, ils dévorent leur hôte de l'intérieur, ils dévorent la chenille de l'intérieur, et le chou peut dire merci à la guêpe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une guêpe d'une autre espèce renifle aussi la substance émise par le chou, et elle part à la recherche de chenilles déjà infectées par la guêpe numéro 1. Cette guêpe numéro 2 pond dans les larves de la guêpe numéro 1 et les jeunes numéro 2 vont dévorer les jeunes numéro 1. Je résume cette histoire un peu tordue. La chenille du papillon dévoreur de choux est parasitée par une guêpe qui est à son tour parasitée par une autre guêpe. Comment voulez-vous que le chou s'y retrouve ? À propos de choux et le monde végétal dans tout cela. À brûle-pourpoint, on pense au gui, qui orne de ses grosses boules vertes les arbres de nos campagnes. Le gui est un profiteur qui se nourrit de la sève de son hôte, pouvant aller, si l'hôte est un peu faible, et les boules de gui un petit peu trop nombreuses, jusqu'à le faire crever. Le gui est un malin. Il laisse les oiseaux se repaître de ses baies blanches, oiseaux qui vont aller se soulager de leur fiente sur un autre arbre, propageant ainsi le parasite. C'est simple, c'est efficace. Mais il y a plus original et plus redoutable, je vais vous raconter une histoire de serial killer. Pour un arbre de la forêt tropicale, accéder à la lumière est essentiel. Question de photosynthèse. Il convient donc de devenir grand, très grand, immense. Le problème est que pour tenir debout, il faut un tronc robuste et donc volumineux. Faire tout ça, ça va prendre du temps, de l'énergie. Et pour avoir de l'énergie, il faut de la lumière. Donc pas simple de se faire une place au soleil dans le club des grands arbres, parce que sachant qu'on doit quand même commencer petit. Les lianes contournent le problème en s'accrochant aux autres, mais il y a bien plus fort. Plusieurs espèces, la plupart du genre Ficus, portent le nom évocateur de figuier étrangleur. Le mode opératoire, pour filer la comparaison avec un criminel, est assez sommaire, mais très efficace. La graine d'un tel figuier, transportée par un oiseau, va trouver sa place sur une branche haute d'un grand arbre. Un petit figuier va commencer à grandir. Il commence par faire descendre ses racines aériennes en les enroulant le long des branches, puis du tronc de l'arbre, jusqu'à atteindre le sol où il va vraiment s'enraciner. Il lance aussi quelques branches vers le haut pour capter la lumière. La suite est inéluctable. L'étrangleur grossit. Ses racines aériennes se soudent les unes aux autres et forment un carcan qui bloque la croissance de l'hôte, qui finit généralement par mourir. En se décomposant, la victime contribue encore à nourrir son assassin, qui est désormais assez robuste pour se passer de support. Donc on a une structure creuse, avec le figuier étrangleur autour, mais qui tient debout tout seul. Dans le genre tueur en série, on pensait à Jack l'éventreur ou à l'étrangleur de Boston, et l'on oubliait le figuier étrangleur. Avec tout ça, y aurait-il un point d'équilibre ? Un bon parasite, entre guillemets « bon », va tirer un maximum de ressources de son hôte pendant le plus longtemps possible. Le meilleur équilibre vu de la fenêtre du parasite est donc atteint lorsque le parasite ne tue pas son hôte, du moins pas avant d'avoir été capable de passer à un autre hôte. Quand il s'agit de nuire, on doit avouer que l'évolution a été particulièrement prolifique et pas que chez les animaux. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David, réalisation, Charlotte Roux.